Question d'islam par Ghalib Benchir. Aujourd'hui, nous parlons de Louis Massignon. Louis Massignon, l'un des plus grands savants français du XXe siècle, encore méconnu peut-être, en tout cas pas du grand public. Et ça va être la mission de Manuel Pénicaud de nous le faire connaître davantage. Manuel Pénicaud, bonjour.
Bonjour Ghalib.
Merci de nous faire l'amitié de venir nous présenter l'œuvre et la vie de Louis Massignon, anthropologue, militaire, mystique, savant, professeur au Collège de France, islamologue de renom. Et vous-même êtes anthropologue au CNRS. Vous êtes écrivain, essayiste, auteur de nombreux ouvrages et vous êtes aussi l'un des commissaires de l'exposition internationale, en tout cas une exposition itinérante, lieu saint partagé. Nous aurons peut-être à en parler. Mérite qu'on lui consacre une émission particulière, mais aujourd'hui nous parlons de Louis Massignon. Comment expliquez-vous, Manuel Pénicaud, que un homme d'une telle envergure intellectuelle reste uniquement restreint, pas si la restriction n'est pas aussi grande que cela, et heureusement, uniquement à un public averti?
Et c'était une excellente question. C'est vrai que Louis Massignon était très connu en son temps. Il était connu dans son exercice de chercheur, mais aussi il était souvent sollicité dans les médias, à la radio, même à la télévision. Il existe des archives. Il était très consulté. Il écrivait beaucoup dans la presse aussi, puisqu'il avait aussi un engagement social très fort. Donc il est mort en 1962, et on pourrait dire que toute la génération...
Le 31 octobre 1962.
Exactement. Et toute la génération qui l'a connu, évidemment, a sa renommée a perduré dans les générations suivantes. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a eu une forme d'oubli où il est tombé un peu en désuétude. Alors il reste aujourd'hui connu des scientifiques, de certains cercles intellectuels, bien entendu, et beaucoup aussi dans le champ du dialogue interreligieux et islamo-chrétien a fortiori. Mais il n'a pas, disons, franchi le cap du 20e siècle, donc du 21e siècle. Donc cette biographie que je signe chez Bayard a la prétention, si j'allais dire, de vouloir le faire reconnaître et connaître aux nouvelles générations.
Vous avez devancé ma question sur cette biographie. Par rapport à d'autres biographes qui sont connus, qui font maintenant autorité, quel est l'apport, parce que vous l'avez enrichi, je dois le dire, chez Bayard, il y a une iconographie très intéressante avec des documents nouveaux, en tout cas inédits, et il y a un éclairage encore plus large, et vous dites si bien que c'est un homme de son temps et de son époque. C'est celui de la Troisième République et celui aussi d'une bonne partie du XXe siècle.
Oui, alors effectivement, il a été à la fois un grand acteur du XXe siècle, on en parlera sans doute, puisqu'il a même eu un rôle important sur le plan politique et diplomatique, notamment pendant la Première Guerre mondiale. Mais cette biographie, du coup, s'appuie sur des sources nouvelles, vous l'avez évoqué, et notamment un récit très, très intéressant qui était déjà connu à l'époque des précédentes biographies, c'est son récit de conversion dans lequel on découvre en fait l'homme mystique, l'homme de l'intérieur, l'homme de foi, l'homme, j'allais dire aussi parfois torturé par certaines expériences de jeunesse, et comment il découvre Dieu, comment il est foudroyé par la présence divine en Irak, donc en Mésopotamie en 1908. Et donc ce texte, d'ailleurs au contact de l'islam, hein, ce qu'il faut bien préciser. Et donc ce texte est vraiment constitue un apport important. Et jusqu'alors, ce texte était un peu secret, si vous voulez, circuler sous le manteau et n'était pas clairement cité. Donc voilà, plus de 70 ans après la mort de Louis Massignon, on peut, je crois, l'exploiter longuement, l'analyser, si vous voulez. Donc ça fait partie des sources C'est une source vraiment importante de ce livre, mais aussi voilà, comme il y a cette dimension de commissariat d'exposition, si je puis dire un mot sur cet aspect-là, c'est que je remercie d'ailleurs beaucoup Bayard de m'avoir permis d'intégrer beaucoup d'images dans ce livre qui en fait jalonne le texte et la lecture, et beaucoup plus que d'être seulement des illustrations qu'on aurait rassemblées dans un cahier photo, là les images ouvrent chaque chapitre et donc je m'attache
et viennent à propos.
Voilà, et surtout même parfois servent de porte d'entrée dans chaque chapitre, c'est-à-dire que je mets une photographie personnelle de Louis Massignon ou d'un objet qui lui a appartenu par exemple, que je décris, et ça permet en fait d'entrer dans une certaine dimension. Par exemple, il y a la photo, c'est une photo qui est inédite en fait, de Louis Massignon et Laurence d'Arabie en 1917, le 11 décembre, qui entrent dans Jérusalem. Donc je décris cette photo et ça me permet d'entrer dans la dimension de Louis Massignon militaire, si vous voulez.
Oui, je ne pensais pas aborder tout de suite cette affaire-là, mais puisque vous en parlez, il y a une amitié, une rivalité entre les deux hommes, Louis Massignon et Laurence d'Arabie, et comme ça, on soldera, si je puis dire, la casquette militaire de Louis Massignon.
Oui, tout à fait. Ben Louis Massignon s'engage en fait dans la Première Guerre mondiale, d'abord d'ailleurs dans l'état-major, dans un rôle de traducteur, puis après va sur le front d'ailleurs, c'est Charles de Foucault qui va lui conseiller d'aller dans les tranchées sur le front d'Orient en Macédoine, après quoi il retourne dans l'état-major et va devenir l'adjoint de François-Georges Picot, qui est en fait l'un des artisans, en fait,
de Sykes-Picot.
Des accords Sykes-Picot entre les Britanniques et les Français. Donc, évidemment, le commandant Laurent, c'était lui du côté anglais et Louis Massignon du côté français. Et donc, il y a clairement une rivalité. D'ailleurs, avec des archives sonores précieuses aussi, où Louis Massignon raconte ses souvenirs de Laurence d'Arabie. Mais on peut revenir peut-être au début de la carrière, je pense que c'est ce que vous
auriez voulu. On aura une trajectoire de vie très dense, très riche, qui commence par le commencement. Bien entendu, il est né en 1883, au mois de janvier, me semble-t-il, à Nogent-sur-Marne, d'une famille plutôt de la région parisienne, mais qui, très tôt, son père, Pierre Roche, qui n'est qu'un pseudonyme, sculpteur connu, va aussi avoir une maison en Bretagne, à Pordic, dans les Côtes d'Armor actuellement. Et nous avons donné la date de décès, c'est le 31 octobre 1962, et sur ces 79 années, on aura une vie très très riche.
Oui, effectivement, j'écris cette expression qui sa vie présente vraiment une amplitude et une surface peu commune, qui en fait, je crois, une figure d'exception. Il y a un mot d'ailleurs que je voudrais partager avec vous, c'est le mot de polymathe, c'est-à-dire de quelqu'un,
un érudit,
voilà, de quelqu'un d'extrêmement polyvalent, érudit, mais dans différentes dimensions. Donc certes, l'islamologue, mais aussi le politologue, l'archéologue, l'historien, et puis qui s'est intéressé aux sciences politiques. Donc il a vraiment une capacité, c'est un savant un peu comme on n'en fait plus, si j'ose dire. Et donc ça, c'est vraiment assez immense d'ailleurs à embrasser, j'allais dire. Donc il m'a fallu beaucoup d'années pour essayer de faire le tour, si tant est que ce soit possible, de cette vie hors du commun. Mais voilà, je crois que le livre, en tout cas, donne beaucoup de clés de lecture, notamment, comme on l'a dit tout à l'heure, à ceux qui ne le connaissent pas du tout. Bien sûr que les Massignoniens savent, ils connaissent déjà les lignes de force, les grandes lignes de sa vie, mais j'essaye d'agencer, d'en faire le récit de façon la plus complexe et complète possible.
Oui, hélas, une seule émission ne suffira pas. On va rester uniquement dans une approche impressionniste par touche. Il fait ses études à Paris, au lycée Montaigne, au lycée Louis-le-Grand, et après il passe son agrégation.
Alors finalement, il la passe, mais il ne la réussit pas. L'agrégation d'histoire, il ne va pas avoir pour un différent d'ailleurs au sujet de Jeanne d'Arc, figurez-vous. Donc il sera recalé à l'agrégation, il ne la repassera pas.
Et donc son DES, puisqu'à l'époque on parlait de DES, le diplôme d'études supérieures, sera sur l'œuvre de Léon l'Africain, les 15 premières années du XVIe siècle au
fait.
Maroc.
Tout à fait, donc il s'intéresse...
C'est curieux comme sujet.
Voilà, Hassan El-Ouazzane, ce grand savant... maghrébin, disons, né à Grenade, mais qui a grandi à Fès. Et Louis Massignon va étudier le Maroc dans ses premières années du XVIe siècle. Et ce sera le sujet de son diplôme d'histoire et de géographie, qui va être publié à Alger au début du XXe siècle, qui va avoir un écho important d'ailleurs. C'est grâce à ça qu'il va être reconnu par Ignaz Goldziher, un grand islamologue hongrois. Mais ce qui est intéressant sur le plan aussi humain et personnel du jeune Massignon, du coup, du jeune étudiant, jeune orientaliste hein, ou pré-orientaliste.
À ce moment-là, on parlait plutôt d'orientaliste et après on parlera d'islamologue.
Exactement. Et donc, il part en 1904, avant même d'avoir soutenu son diplôme d'études supérieures dont vous parlez. Il part au Maroc, sur le terrain, comme on dit en tant qu'ethnologue. Il suit donc une expédition de Tanger à Fès. Dans une caravane, à l'époque le Maroc n'est pas du tout sûr comme aujourd'hui, et donc il y a toute une expérience intéressante, enfin plus qu'intéressante, même rocambolesque, voire romanesque, où la caravane est attaquée, il se fait trahir par son interprète qui, voilà, et du coup il se promet à cette occasion-là d'apprendre l'arabe, et d'ailleurs il écrit « je l'apprends toujours » à la fin de sa vie.
Et alors qu'il est l'un des plus grands arabisants.
Voilà. Et donc, c'est vraiment cette péripétie, j'allais dire, de jeunesse, où il apprend d'ailleurs à s'endurcir, où il est armé, etc. Il revient à Paris et il s'inscrit aux langues orientales pour commencer son apprentissage de l'arabe.
Oui, pour rester dans le domaine, je dirais, de carrière universitaire et académique, il va succéder à Alfred Le Chatelier, qui lui est le premier titulaire de la chaire de la sociographie, on disait musulmane, on devrait dire islamique, au Collège de France, momentanément, et après il en sera lui-même titulaire par la suite de 24 à 50 et quelques.
De 26 à 54.
De 26 à 54.
Oui. Effectivement, alors cette chaire est particulière, c'est une chaire de fondation qui est financée par, disons, des États outre-mer ou des colonies. Alfred Le Chatelier, c'est un orientaliste aussi, mais plus militaire d'ailleurs au départ. Et à l'époque, d'ailleurs, il faudrait dire aussi que ces savants ne passaient pas tous par, disons, le cheminement classique des études supérieures. Et il est arrivé que certains acteurs coloniaux deviennent savants par leur connaissance des langues ou du terrain, etc. Donc ça a été le cas d'Alfred Le Chatelier, qui a pris, en fait, c'est vrai, Louis Massignon sous son aile, mais il y a eu quelques différends entre eux. Et Massignon l'écrit très clairement, d'ailleurs, où il réfute un peu la technique, dit-il, un peu invasive, voire encore conquérante et très colonialiste, en fait, de Le Chatelier, et va préférer plutôt la voie de Lyoté, en fait, du Maroc, d'Hubert Lyoté, qui est le résident général, en fait, à la même époque. Mais voilà, donc Massignon accède très vite à la fin de la Première Guerre mondiale, pardon, au statut de professeur du Collège de France, qui est quand même pas rien.
Bien entendu. Ses liens avec de Foucault.
Alors là, nous touchons directement au cœur de sa spiritualité, voilà. Alors là, on va parler peut-être de sa spiritualité chrétienne, mais qui a une base, en fait, j'aurais dit, une base aussi, ou un lien très fort avec l'islam. Hein,
mais après une période d'athéisme prononcé,
voilà.
Voire d'agnosticisme sérieux.
Oui, il est dans l'incroyance à partir de 1900, donc à partir de ses 17 ans environ, jusqu'à 1908.
En 1907, il aurait pensé à se suicider
Plutôt en 1908, c'est-à-dire au moment où il va avoir cette crise, en fait, hein, mystique en Mésopotamie que j'ai évoquée succinctement tout à l'heure, mais qui est vraiment un nœud important de sa vie. Et il y a un épisode dans lequel il pense à se suicider et il essaye de se suicider. Parce qu'il est prisonnier sur un bateau à vapeur turc, ottoman, et il se croit condamné à mort. Donc à ce moment-là, il pense mettre fin à ses jours. Il essaye. Mais c'est d'ailleurs parce qu'il essaye que le lendemain, il aura cette crise mystique qu'il appelle, de façon très poétique, la visitation de l'étranger. Alors, la visitation, évidemment, c'est un mot évangélique, de la visite, comme la visitation de Marie à sa cousine. Mais lui, l'étranger étant Dieu, en fait. Donc, Louis Massignon se fait l'hôte de Dieu qui vient le sauver, en fait, de son désespoir. Voilà.
Oui, je ne vous ai pas laissé aller jusqu'au bout à développer les liens avec de Foucault, et pardon. Et alors, finalement ?
Alors, par rapport avec Foucault, donc Louis Massignon revient de Mésopotamie en 1908 et est converti, donc est reconverti au catholicisme, en fait, hein, à la foi maternelle, je dirais, alors qu'on aurait pu croire qu'il aurait été tenté par l'islam. Il a été très, très profondément séduit et attiré par l'islam. D'ailleurs, comme Foucault, qui en 1883 avait fait son expédition au Maroc, et à quelques pages, ou sinon quelques lignes, où il se dit très, très ému de voir la prière des musulmans dans le désert marocain. Et Louis Massignon va vivre cette même... va être saisi, en fait, dans sa période d'incroyance, en fait, sa rencontre de l'islam va être vraiment déterminante. Mais plutôt que de se convertir à l'islam, il va choisir le christianisme, de revenir à la religion de sa mère, en fait, plutôt que de son père. Et très vite, donc à Paris, il va écrire au père de Foucault, qui était à Tamanrasset, Rasset, en fait, en Algérie, à qui il avait, en fait, envoyé son œuvre sur Léon l'Africain, dont on a parlé. Le père de Foucault lui avait répondu, très aimablement, mais Massignon n'avait jamais répondu. Mais là, une fois converti, il lui écrit, donc il y a une très riche correspondance, et très belle correspondance, ils vont se rencontrer dès 1909, dès l'année suivante, et Foucault décèle dans ce jeune Massignon, qui a un ascétisme très prononcé, une foi mystique très chevillée au corps, lui dit « Venez avec moi, vous me succéderez, je vous ferai même ordonner prêtre en secret, vous pourrez être savant aux yeux des hommes et prêtre devant Dieu. » Et Massignon va hésiter plusieurs années, et finalement on va préférer sa carrière d'islamologue, et se consacrer pleinement à sa thèse sur Hallaj, qui est donc le grand saint musulman de sa vie.
Nous en parlerons d'une manière anecdotique peut-être. Il aurait demandé l'avis à Paul Claudel, qui était un de ses amis, quant à l'idée de se marier. Et Paul Claudel lui aurait répondu « Ah, vous me décevez là, vous allez devenir ordinaire. Okay. » Je ne sais pas quelle est la véracité, en tout cas, de cet échange, mais finalement, lui, Massignon, va peut-être se détourner d'une vie ascétique, ou celle d'un cénobite, ou celle d'un ermite du désert, et il va finalement intégrer le siècle.
Exactement, il est tiraillé, en fait, hein, entre un appel du désert, typiquement, que Foucault lui lance très, très tôt, donc dès 1909, et un désir plus mondain, j'allais dire, hein, de rester dans le siècle, comme vous dites, et de continuer ses études. Et donc c'est vrai qu'il rencontre de façon concomitante aussi Paul Claudel. Et là, il y a une remarquable correspondance, encore plus longue, puisqu'elle dure jusqu'aux années 50, en fait. Et Claudel est l'aîné de Massignon, mais voit en lui aussi un jeune prodige, quelqu'un de... qui est fait d'ailleurs, lui dit, vous êtes fait pour le martyr. Il voit vraiment en lui quelqu'un de... Donc pour les chrétiens, c'est quelque chose de très d'ultime, entre guillemets. Et quand Louis Massignon décide, en 1913, de se marier, exactement comme vous l'avez dit, Claudel lui écrit, vous n'êtes plus intéressant, Massignon, vous allez entrer dans cette vie où nous pataugeons tous. Enfin, il a en substance, c'est l'idée. Et avant de se raviser et finalement de continuer à être proche de lui, de l'accompagner.
Oui, peut-être à ce niveau, puisque vous l'avez évoqué, qu'est-ce que c'est que cette rencontre fulgurante avec Hallaj, dont on dira deux mots. Hallaj est un surnom, c'est le quart d'heure. En réalité, il devait être le quart d'heure de l'haleine, mais c'est devenu le quart d'heure des consciences. C'est un mystique, 858 dans la Perse actuelle, dans l'Iran actuel, et mort à Bagdad suite à un procès retentissant en mars 922 à Bagdad. Et cette rencontre avec Al-Hallaj, Mansour Al-Hallaj, a bouleversé Louis Massignon.
Oui, on l'a quitté au Maroc. On pourrait dire que, après cela, il est nommé archéologue au Caire, à l'Institut français d'archéologie orientale du Caire. Et là, il rencontre Al-Hallaj par des lectures, notamment dans un recueil de Attar, d'un autre poète persan.
Fariduddin Attar, l'apothicaire. Exactement. Dans le Mémorial des Saints.
Exactement. Et Louis Massignon est vraiment saisi par la poésie. Je crois que c'est à ce moment-là, il est vraiment dans ses années d'incroyance, mais il est très très touché par la poésie, la profondeur et puis la mystique, ça va ensemble aussi de ses écrits. Je crois qu'il faudrait dire qu'il a une grande sensibilité artistique. Son père, comme vous l'avez dit, est sculpteur, graveur de son état. Donc il a grandi dans un environnement très propice aux arts, hein, même à la musique.
Il a une éducation esthétique prononcée.
Extrêmement, voilà. Et donc il est vraiment fasciné par cette figure de Hallaj. Et assez vite au Caire, il a l'idée de dire, il écrit à son père d'ailleurs, je crois que j'aimerais consacrer une thèse de doctorat à cette figure, sur laquelle on a d'ailleurs, il l'écrit avec beaucoup de familiarité. On a débité beaucoup d'âneries. Je voudrais travailler sérieusement sur les textes qui lui sont dédiés et sur ses œuvres aussi. Et après coup, donc la période égyptienne, donc c'est 1906, est très mouvementée. Il a une histoire amoureuse, d'ailleurs avec un renégat, c'est-à-dire un marquis espagnol converti à l'islam, qui est très mouvementé, tumultueuse, et dont il s'enfuit d'Égypte et va finalement arriver à Bagdad. Mais c'était, comme il le dit, son vœu le plus cher, puisque Bagdad étant l'une des villes, la ville où a fini d'ailleurs ses jours Mansour Al-Hallaj, et donc ça va lui permettre à cet endroit-là de retrouver les sources, de consulter les bibliothèques qui regorgent justement de manuscrits, de témoignages et d'exégèses, j'allais dire, sur le cas de Hallaj.
Voici un poème de Hallaj.
Louis Massignon.
J'ai étreint de tout mon être, tout ton amour, ô ma sainteté. Tu me mets à nu tant que je sens que c'est toi en moi. Je retourne mon cœur parmi tout ce qui n'est pas toi, mais je ne vois plus rien qu'effarouchement de moi à eux et familiarité de toi en eux. Ah, me voici dans la prison de la vie, environné des humains. Arrache-moi donc vers toi, hors de la prison.
Alors nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons de l'islamologue Louis Massignon, avec le concours heureux de Manuel Pénicaud, anthropologue au CNRS et un des commissaires de l'exposition internationale, l'exposition itinérante « Lieux saints partagés ». Et avec cette nouvelle biographie très riche, nous passons en revue une trajectoire de vie du grand islamologue du XXe siècle que fut Louis Massignon. Vous avez parlé de la rencontre, et vous l'avez étoffé, de Louis Massignon et du mystique Al-Hallaj. Ça a vibré, c'est entré en résonance, cette poésie et l'âme de Louis Massignon.
Oui, d'autant plus que j'ai évoqué cet épisode qualifié de la visitation de l'étranger, donc c'est sa conversion intérieure, personnelle, intime même, en 1908, sur le Tigre. Et là, figurez-vous que le jeune Massignon donc part en expédition d'archéologie, est pris... Il y a une rébellion, disons, la révolte des jeunes Turcs qui se prépare dans l'Empire ottoman. Et il est accusé d'être un espion de Français, donc de fomenter cette révolte. Et il est emprisonné sur ce navire. Et c'est là donc l'épisode du suicide, de la tentative, disons. Et puis surtout de cette visitation, de ce foudroiement, de cet éclair. Et figurez-vous que là, il a la conviction profonde et mystique, justement, d'avoir des adjuvantes, c'est-à-dire des personnes qui vont l'aider à remonter, disons, du désespoir dans lequel il était. Et Halage figure parmi ces figures. Et nous avons d'ailleurs Foucault, dont on vient de parler, mais surtout Halage qui est là et qui l'accompagne. Donc, on pourrait dire que Halage fait partie de ces figures qui le sortent, disons, de sa torpeur.
De sa déréliction.
De sa déréliction, c'est exactement ça. Et au point qu'après, il retourne à Bagdad, donc le consul de France le sauve, entre guillemets, de ce navire. Il est hospitalisé, il est même donné pour mort, parce qu'il a vraiment... Alors, on ne sait pas si c'est une crise de paludisme ou s'il a, en tout cas, sa santé est très très mauvaise. Il est dit à l'article de la mort. Et là, figurez-vous qu'il entend d'ailleurs des tourterelles chanter de sa fenêtre, et elles disent hack hack hack. Et en fait, ce mot-là en arabe qui signifie donc la vérité est pour lui un signe, j'allais dire, encore une fois, de la présence d'Halage à ses côtés. Puisque Halage a été martyrisé.
Et condamné pour avoir dit « Analhaq, je suis la vérité ».
Exactement, qui est l'un des attributs divins. Donc voilà, c'est d'ailleurs pour cela que ce saint ou ce grand poète est très controversé et parfois considéré comme un hérétique aussi en islam. Mais Louis Massillon donc, s'est intéressé à lui plus tard, mais à ce moment-là, il est vraiment habité, j'allais dire, il est même possédé, mais dans le sens positif, par cette figure qui ne va plus le quitter pendant des années durant. Et après quoi, une fois converti, revenu en France, il va étudier d'arrache-pied dans toutes les bibliothèques d'ailleurs d'Europe, hein, de Constantinople à Londres, en passant par Berlin, les manuscrits de Halage, et en même temps ça nourrit sa propre mystique.
Oui.
Chrétienne et islamo-chrétienne. Il va puiser beaucoup d'éléments halagiens et les phersiens.
Oui. Halage a été aussi aggravé son cas par un autre vers qui est quand tu me vois, tu nous vois, et quand tu me vois, tu le vois. Pas parlant de Dieu, et comme quoi c'est. Et il n'y a dans la robe que je porte que Dieu. Et c'était insupportable pour l'orthodoxie de l'époque et pour ceux qui n'étaient que pour une approche exotérique des choses. Maintenant, en poursuivant cette trajectoire de vie, mais qu'on prend uniquement, comme j'ai dit tout à l'heure, par touche, la rencontre avec Marie Cahil.
Oui,
c'est un peu plus tard en Égypte.
C'est peu après, puisqu'il la rencontre, en fait, je crois, en 1911 ou 1912, au Caire. Effectivement, il est à ce moment-là, il enseigne à la nouvelle université du Caire, donc en tant qu'arabisant et spécialiste du soufisme, hein, du lexique mystique des soufis. Et dans un dîner, pour le coup mondain, j'allais dire, il va faire la rencontre de Marie Cahil, qui est une jeune femme melkite, c'est-à-dire catholique, chrétienne, mais de langue grecque, c'est-à-dire de rite grec melkite. Et au début, il y a une forme de... Leur rencontre est un peu houleuse, entre guillemets. Et puis petit à petit, en fait, ils vont se trouver, notamment par rapport à cette amie dont j'ai parlé, qui avait été, disons, une liaison amoureuse de Louis Massignon quelques années plus tôt.
Je ne voulais pas vous poser la question, mais je la pose à ce moment-là, en vous interrompant, oui. Pardon. On a parlé d'une homosexualité de Louis Massignon avec cet apostat ou ce renégat.
Oui, voilà, il y a quelques mois, on va dire, il a une expérience amoureuse avec cet homme-là. Et d'ailleurs, le lien, c'est que c'est cet homme-là qui lui a fait connaître Attar et Halage, en fait. Donc pour Massignon, c'est très important, cette donnée-là. Mais Louis Massignon converti, disons, va vouloir, alors il faut le comprendre avec ses mots, mais entre guillemets, guérir. Ce jeune espagnol, notamment, je dis guérir, alors aujourd'hui ça ne passe pas ce genre de mot, mais à l'époque c'était une des conceptions de l'époque, de son homosexualité. Et du coup, Louis Massignon va demander à Marie Cahil de prier avec lui pour le salut de cet ami Louis, qui finalement ne va jamais changer et qui va finir par se suicider quelques années plus tard. Mais il y a cette idée centrale, en fait, qu'il faut bien retenir, c'est cette idée de substitution.
la fameuse badalia, un terme arabe qui peut être rendu par substitution, par amour compassionnel ou amour compassion, ou le fait de se mettre à la place d'autrui.
Exactement. Louis Massignon avait hérité cette notion mystique de l'écrivain Yuris Carlos Mans, dès 1900.
Donc, ah oui, c'est une rencontre déterminante aussi.
C'est un autre. Il a plusieurs personnages clés comme ça.
Une rencontre de six heures qui a modifié sa trajectoire de
vie. Exactement. Et Louis Massignon, reconverti donc au catholicisme, va retravailler, refaire sien cette notion de substitution et qui va trouver chez Halage justement encore une fois. La substitution, c'est de souffrir et de s'offrir à la place de l'autre.
Oui, peut-être se fondant aussi sur un passage du Premier Testament, puisqu'on ne dit pas l'Ancien Testament, du juste ou du serviteur souffrant, ou du juste souffrant, celui qui, par sympathie, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire partager un pathos commun et synchrone, donc c'est cette idée d'amour compassionnel ou d'amour compassion.
Exactement, et Massignon parle de compassion réparatrice, c'est-à-dire qu'on peut réparer le mal commis par un tiers en souffrant à sa place. Donc c'est une conception particulière, mais en tout cas elle est cruciale chez lui. Et donc avec Marie Cahill, ils vont pendant ces années-là essayer de sauver, c'est peut-être le mot à employer le plus juste, leur ami Louise Desquadra. Cela ne va pas fonctionner, mais ils se retrouveront plus tard. Dans les années 30, en 1934, en fait, Louis Massignon va se retrouver en Égypte au Caire, puisqu'il est nommé à l'Académie de langue arabe du Caire en 1934. Et là, il retrouve Marie Cahill. Et là, par un retournement ou en tout cas une évolution, on fait un saut dans le temps aussi, hein. Mais tout ça, et donc il y a une vingtaine d'années qui se sont passées. Et là, il va ouvrir la prière de Badalia aux chrétiens d'Orient, avec le projet de prier pour les musulmans.
Et vice-versa.
Et vice-versa. Mais alors, c'est pas du tout, il faut vraiment bien préciser, parce que c'est quand même très compliqué cette affaire. Il s'agit pas du tout de prier pour la conversion des musulmans au christianisme, mais de prier pour leur salut. Alors voilà, c'est quelque chose. Et en substitution. Et donc, il va, avec Marie Cahill, en 1934, former ce petit groupe. Informel pour le coup au début à Damiette sur le Nil, petit à petit auxquels vont s'agréger de plus en plus de personnes ou de proches, ce qui va conduire les années passant après guerre aussi à la constitution de plusieurs groupes au Caire, à Paris, à Jérusalem, à Aix-en-Provence. Il va y avoir toute des petits groupes entre eux qui prient. Alors au départ, ne rassemblant que des chrétiens, mais ils récitent la Fatiha, ils jeûnent.
La Fatiha étant l'ouvrante ou le prologue ou la préface invocatoire du Coran.
Exactement. Et donc c'est tout à fait novateur et révolutionnaire pour des chrétiens de réciter le Coran dans des églises. Il va même aussi dire que la Qibla des gens de la Badalia, c'est Jérusalem. La Qibla étant la direction de la Mecque vers laquelle...
Enfin, l'orientation,
pour l'orientation de la prière.
Oui. De la prière canonique.
Exactement.
Chez les musulmans. Ce qui fera dire, il faut bien la placer un moment ou un autre, au pape Pie XI en 1934, juillet 34, de Massignon, qu'il est le catholique musulman.
Oui, c'est ça, exactement. Donc là, c'est
qui n'était pas pour déplaire à lui Massignon.
Alors c'est ambigu. À la fois, à ce moment-là, il, comme ça vient du pape, il ne peut pas le contredire. Il y a d'autres moments où ce genre d'appellation le dérange un peu. Il y a d'autres fois, ça le fait sourire et il est assez touché. Mais donc, exactement en juillet 34, il va à Rome pour une audience privée avec le pape, lui présenter ce projet de Badalia, donc quelque chose de tout à fait novateur, qui n'a rien à voir avec la mission, avec ce que les chrétiens de l'époque pratiquent jusqu'alors. Le pape bénit cette entreprise. Et alors j'ajoute même quelque chose, c'est qu'à ce moment-là, Louis Massignon veut faire reconnaître Halage par l'Église catholique, ce qui paraît tout à fait aussi sidérant, au nom du fameux baptême par le sang.
qui existe dans le catholicisme. Mais là, le pape se montre plus expectant, comme il dit. Et Massignon rapporte cette rencontre à Marie-Cahil. Il lui dit vous êtes devenu musulman. Donc c'est une forme de second degré. Mais c'est vrai qu'il va être repris du coup dans le titre du livre, qui permet de montrer. Alors voilà, c'est quand même. Il reste un mystique catholique, mais avec une telle islamophilie que donc le pape, la plus haute autorité du catholicisme, s'est permis cette formule cavalière, mais qui intrigue.
Oui. Et de toute façon, cette idée de badalia, le terme arabe de substitution ou de se faire l'hôte d'autrui dans une forme d'hospitalité spirituelle, entre en résonance avec la notion mystique chez les soufis, en termes pluriels, des abdals. On a des mystiques qui se substituent à d'autres, en réalité. Donc, je pense qu'il y a une homologie ou une analogie sur cette notion de substitution.
Oui, tout à fait. Alors, encore une fois, Louis Massignon va forger, comme je dirais, un système, hein, une conception avec des éléments musulmans et des éléments chrétiens qu'il va essayer de faire converger. Et il trouve dans ces abdals dont vous parlez, dont c'est la même racine hein, d'ailleurs que badalia, il va trouver dans ces abdals l'équivalent dans le christianisme de ce qu'on appelle les saints apotropéens. Donc, ce sont des saints qui prient pour le salut de l'humanité tout entière. Et comme il l'écrit, qui se succèdent d'âge en âge en secret. Et donc on a la même idée aussi souvent dans le soufisme de saints cachés qui prient pour les autres.
Et qui portent le monde.
Voilà, des piliers, oui. Des piliers invisibles. Et c'est vrai que toute toute sa vie, Louis Massignon va chercher ces figures. Alors il y en a de très connues, comme le patriarche Abraham, enfin tous les prophètes peuvent être considérés comme tels, mais aussi des personnes beaucoup plus humbles et discrètes et cachées. Et lui donc va essayer de décrire un peu une histoire apotropéenne des compassions, comme il l'écrit, par rapport à cette notion de substitution de ces figures qui se trouve dans le monde entier, en fait. Et de la même manière, d'ailleurs, que pour lui, la géographie du monde est dite spirituelle. Il parle de géographie spirituelle du monde qui serait parsemée de lieux où palpitent comme ça des centres de gravité spirituelle et parfois en raison de la présence de ces figures, de ces abdals.
Oui, cette géographie ou topographie spirituelle, comme il dit, va l'amener à trouver un lieu commun, au sens topographique du terme, entre la tradition chrétienne et la tradition islamique, notamment avec les sept dormants d'Éphèse.
Exactement. Donc là, c'est tout un volet important auquel j'ai consacré ma thèse de doctorat, moi, précisément pendant plusieurs années. Et c'est vrai que Louis Massignon, du coup, a des. Je dirais, il a constitué une forme de ce que j'appelle un panthéon personnel, dans laquelle Allah a certainement le premier rôle, mais souvent suivi d'ailleurs d'Abraham, Ibrahim, Massignon est l'un des pères de l'abrahamisme, on pourrait en parler. Donc c'est une figure vraiment importante pour les trois monothéismes. Mais donc il travaille, disons, il prie, j'allais dire en même temps, toute cette galaxie, cette généalogie de figures saintes, hein, que ce soit aussi Marie, la mère de Jésus, du prophète Issa. Et il va travailler du coup toutes ces figures et ça va l'amener à découvrir les sept dormants, chez Halaj d'ailleurs. Parce que on pourrait l'ajouter, mais c'est que Halaj a été martyrisé en 309 de l'Égypte, et le 309 est le nombre de la durée du sommeil, oui, dans le Coran des sept dormants. Et les sept dormants, donc, ce sont des saints chrétiens qui auraient été emmurés vivants dans une caverne près d'Éphèse en Asie Mineure, mais qu'on retrouve aussi dans la sourate 18 du Coran. Et donc il va, essayer d'identifier, dans le cadre de ses travaux, toutes les occurrences géographiques, mais aussi liturgiques, rituelles, qui mettent en œuvre, qui mettent en, disons, où les sept dormants sont présents. Et cela à l'échelle du monde entier, puisqu'on les trouve du Maroc à la Chine, en islam, mais aussi dans le christianisme. Et figurez-vous qu'au tournant des années 50, il va découvrir en Bretagne, donc en France, au dernier endroit où il se serait douté, un lieu chrétien dédié aux sept dormants. Et là, il va innover et inventer quelque chose.
En suivant la route de l'étain, et cette route-là mène à la chapelle des sept saints, tout près de Vieux Marché, dans le Trégor. Nous aurons à y revenir, et si vous voulez bien, nous y consacrerons une émission ad hoc, parce que le sujet mérite qu'on lui consacre une émission. Lui, Massignon, rentrera finalement en France. Il est, dans les années 50 et notamment en 54, plus que préoccupé, même au plus haut point, par ce qu'on appelait à ce moment-là les événements d'Algérie. Après, ce sera la guerre. Et quelle va être sa position ?
Alors, si vous me permettez un retour en arrière, qu'il faut vraiment aussi dire, hein, c'est important, c'est que le jeune Massignon de la Troisième République, au début du XXe siècle, est, comme il l'avoue lui-même, fort colonial.
Dans une mission civilisatrice.
Voilà, c'est un peu l'idéologie dominante, même par rapport au Maroc, mais évidemment à l'Algérie qui est une colonie française. Donc il est dans une époque où il est aussi annexionniste, c'est-à-dire l'idée d'apporter la civilisation, entre guillemets, notamment en Afrique du Nord. Et dans le sillage de Foucault, dont on a parlé tout à l'heure, etc. Mais il faut vraiment... Ça, il faut le reconnaître. Et en même temps, il y a une évolution chez lui, au fil des ans, qui va se concrétiser après-guerre, donc après la Deuxième Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Et là, il y a tous les événements d'Afrique du Nord, même avant l'Algérie, ça commence déjà au Maroc, avec la déposition du sultan, du sultan qui va devenir Mohamed V. Donc là, il est vraiment...
Qui sera un de ses amis, dit-on.
Bien sûr, parce qu'il a même contribué à son retour et à son retour sur le trône. Il va lui rendre visite à Madagascar. Donc voilà, il est vraiment acteur et très impliqué. Et donc là, on voit l'universitaire qui devient aussi un acteur politique, un intellectuel catholique engagé aussi, qui prend fait et cause, en fait, pour beaucoup pour les populations musulmanes, en fait, parce qu'il ne peut pas ignorer les injustices qui se passent de ce côté de la Méditerranée. Et petit à petit, du coup, il va basculer vraiment en faveur des décolonisations.
Parce que, dit-il, il a vu il y a eu un manquement grave par rapport à cette mission civilisatrice et qu'on n'en a pas été à la hauteur.
Exactement. Mais par exemple, il va souvent, lui, il est plutôt, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est plus de l'école de Lyoté, en fait, que de l'école algérienne ou de Le Châtelier. Mais Hubert Lyoté avait un grand respect de l'islam et du roi et de la monarchie aussi marocaine. Et du coup, de préserver, tant que faire se peut, la culture musulmane et aussi la langue arabe. Louis Massignon va se rendre compte, en fait, qu'en Algérie, les choses ne se passent pas vraiment dans ce sens-là. Et quand, après, les fameux événements de la Toussaint Rouge de 1954 ont lieu, là, pour lui, c'est vraiment le signal qu'il faut prier plus que jamais pour la paix sereine, comme il dit, en Algérie. Et là, il va avoir des tas d'actions concrètes, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, médiatiques, dans la presse, en prenant position. C'est d'ailleurs l'année de sa retraite universitaire, ce qui lui permet peut-être d'avoir un peu plus de liberté de parole, mais je crois qu'il l'avait déjà auparavant, avec François Mauriac, qui vont créer le comité France-Maghreb, par exemple, aussi, qui va prendre position pour la paix, à la fois au Maroc, mais aussi en Algérie, mais aussi en Tunisie, parce qu'il va contribuer à la libération de Bourguiba aussi, qui est emprisonné en France. Donc là, c'est un Massignon beaucoup plus politique, mais avec toujours, ce qu'il faut bien retenir, c'est que sa politique, elle est toujours gouvernée par ses valeurs spirituelles, en fait. Et ça va l'amener à pour refaire écho à ce que vous avez dit, a créé cette même année-là, en 1954 et 1955, ce pèlerinage islamo-chrétien des Sept Dormants, qui est d'abord créé dans une intention spirituelle, mais aussi politique.
Et de pardon.
Oui, non, pas tellement de pardon, mais plutôt de réconciliation.
D'accord.
Le mot clé, le mot même de dialogue n'existe pas à l'époque, on ne parle pas de dialogue interreligieux, mais lui prône la réconciliation abrahamique. Il veut préparer la réconciliation de tous les enfants d'Abraham, donc ça veut dire des trois monothéismes, pour préparer, dans une perspective eschatologique, la résurrection et la réunion de l'humanité. Ça peut paraître très présomptueux ou ambitieux, mais donc c'est vraiment, on voit le savant qui devient, comme je dis, un entrepreneur de l'interreligieux.
Et de l'irénisme, disent certains, mais peut-être que le mot n'est pas tout à fait
non,
approprié.
Non, le mot n'est pas heureux, parce que aujourd'hui, en tout cas, il y a une charge péjorative dans ce mot d'irénisme, qui dit qu'on ne voit que les bons côtés des choses, etc. Même s'il y a une part de vrai là-dedans. Mais en tout cas, il devient acteur et va créer ce lieu comme un laboratoire des relations islamo-chrétiennes, mais dont la vocation est de prier pour la paix sereine dans la justice en Afrique du Nord.
بعظامي الفانيات ثم مروا برفاتي
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons de l'islamologue Louis Massignon à l'occasion d'une nouvelle biographie parue chez Bayard. Et nous la devons à Manuel Pénicaud, anthropologue au CNRS, un des commissaires de l'exposition internationale Lieux Saints Partagés. Et nous parlons de ce grand savant, un des grands savants, si ce n'est en tout cas dans son domaine, mais qui est un polymathe, vous nous l'avez dit, Emmanuel Pénicaud, du XXe siècle, c'est le savant qui a une érudition quasi universelle de son époque, et dont on disait de lui, et c'est même c'est Matkour, Ibrahim Matkour, secrétaire général, c'est ça son titre, ou perpétuel, président de l'Académie de la langue arabe au Caire, qui le 20 décembre 1962, donc on est à peu près à moins de 2 mois de son décès, qu'il était le plus chrétien d'entre les musulmans et le plus musulman parmi ou d'entre les chrétiens.
Effectivement, donc c'est une formule que je cite d'ailleurs, je crois, en exergue ou quelque part dans le livre. Matkour avait été un de ses élèves dans les années 1910 au Caire avec Taha Hussein d'ailleurs, l'écrivain que l'on sait, et donc cet hommage, cette formule encore qui fait écho peut-être au titre du livre, le catholique musulman, montre aussi l'ambiguïté de cette figure qui dérange en fait aussi les tenants d'appartenance stricte et bien définie, voire exclusive, puisque du coup il est un peu à la frontière tout en étant dans une identité bien définie. Mais, comme je le dis, avec une islamophilie telle que ça l'amène parfois à franchir aussi certaines frontières, alors que sa mystique aide à ce que sa mystique aide à faire. Mais donc c'est une formule qui montre justement qu'il est possible de ne pas demeurer cantonné seulement dans sa seule identité religieuse confortable, mais qu'on peut aussi, au contraire, que l'altérité religieuse vient au contraire féconder sa propre identité. C'est, je crois que c'est quelque chose de très important.
Oui. Alors, il sera cet islamologue de renom, il donnera à l'islamologie ses lettres de noblesse comme une discipline scientifique, universitaire, un peu à la manière des Maspero, père et fils, l'un est égyptologue, l'autre sinologue. C'est-à-dire, il voulait faire sortir l'orientalisme qui était parfois, voire souvent, au service de l'œuvre coloniale, de l'islamologie savante.
Oui, alors c'est amusant que vous parliez de Henri Maspero, donc le fils, le sinologue, qui va devenir donc professeur au Collège de France, comme Louis Massignon. Ils étaient tous les deux lycéens ensemble. Et donc ils ont beaucoup arpenté les bibliothèques des langues orientales. Justement, d'ailleurs, il y a une anecdote qui dit qu'ils avaient reçu une dispense d'âge, c'est-à-dire qu'ils ont pu, très très jeunes, dévorer tous les livres de leur choix. Et là, il y a un appétit de dévorer, hein, de découvrir le monde, voire même, comme il le dit, de remplir le blanc sur les cartes. Donc il y a tout un imaginaire aussi de conquête, de découverte, mais qui évidemment rime avec l'entreprise coloniale. Et l'orientalisme a souvent été le bras savant de la comme la mission l'a été du côté de l'Église. Mais effectivement, il a dépassé, je crois, ce côté qui aujourd'hui est clairement condamné dans les études qu'on appelle d'ailleurs post-coloniales. Mais il a, disons, marqué l'islamologie, comme vous l'avez dit, l'un des pères de l'islamologie française. Il a fait entrer l'étude du soufisme dans les études académiques. Et surtout, ce qu'on oublie aujourd'hui, alors là, c'est plutôt le chercheur que je suis qui le dit, c'est que même si Louis Massignon n'est plus très connu, en fait, quiconque s'intéresse à ces disciplines remonte forcément un jour ou l'autre à lui. Si on voit le nombre d'élèves ou de disciples qu'il a laissés, qui sont, eux, encore connus dans l'histoire, si je dis Jacques Berck, Henri Corbin, Eva de Vitré-Mihirovitch, Germaine Tillon, dont il était l'un des directeurs de thèse avec Marcel Mauss. Donc il a vraiment marqué de son empreinte toutes les sciences humaines, les sciences humaines du début du XXe siècle.
En tout cas, la filiation intellectuelle, pour ne pas dire spirituelle, qui remonte à lui, est attestée, réelle, par ces grands noms que vous avez cités. Merci infiniment, Manuel Pénicaud. Nous arrivons au terme de l'émission, très riche, sur un homme dont la vie elle-même était d'une extraordinaire richesse elle-même. Chers amis auditeurs, c'était question d'islam. Aujourd'hui, nous avons reçu Manuel Pénicaud pour nous parler de Louis Massignon. L'attaché d'émission est Daphné Abkral. La prise de son est assurée par Mathieu Tourin et la réalisation est assurée par Guillaume Baldi.
في القبور الدارسات.